Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
C'est une histoire passionnante. L'histoire de Jacques Fesch. En 1954 à Paris, au cours d'un braquage, il tue un policier. Il est arrêté, incarcéré, et il fait en prison un chemin spirituel. Il se convertit. Il est condamné à mort, exécuté. Et l'Église catholique veut aujourd'hui en faire un saint. Saint Jacques Fesch. Le mérite-t-il? J'ai écrit cette histoire avec Nicolas Loupien, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Venez avec moi dans le quartier de la Bourse à Paris, un soir de février 1954, le 25. Vous voyez la Bourse, le Palais Brongniart? Juste en face, au 39 rue Vivienne, vous voyez la boutique de change, le comptoir de change et de numismatique. Petite boutique, mais bien placée. Elle est tenue par un monsieur qui s'appelle Alexandre Silberstein. Il est 6h20 de l'après-midi, la nuit est en train de tomber, les employés des bureaux alentours se pressent vers le métro ou vers les bistrots. Mais vous, vous ne quittez pas la boutique des yeux, parce que c'est là que ça va se passer. Vous voyez les deux hommes qui entrent dans la boutique? C'est maintenant que ça commence.
Ah! Bonjour, monsieur. Vous venez pour les Napoléons que vous m'avez commandés hier?
Je les ai. Ma banque me les a livrés.
Asseyez-vous, je vous en prie.
Alors, laissez-moi d'abord vérifier le cours du jour auprès de ma banque, je vous fais la facture et je vous donne les pièces.
Allô?
Oui, bonjour, Alexandre Silberstein à l'appareil. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me donner le cours du Napoléon or? Oui. Entendu. Merci.
Fiston, tu vas chercher les pièces pour ces messieurs?
C'est là que ça bascule. L'un des hommes sort de la boutique et l'autre, un grand blond, sort un revolver de sa sacoche.
Et maintenant, vite ton fric ou je tire.
Allons. Vous avez l'air raisonnable. Je suis un ancien combattant. Vous vous rendez compte de ce que vous faites? Vous allez gâcher votre vie.
Comme réponse, bim! Monsieur Silberstein reçoit un coup de crosse sur le crâne. Et après, il étale toute sa caisse sur le comptoir.
Plus vite!
Bim! Deuxième coup sur la tête. Et là, le maladroit fait tomber son revolver et en le ramassant, un coup de feu part et il se blesse lui-même à la main gauche. Pendant ce temps, M. Silberstein tente d'aller se planquer dans un cagibi, Sézig le rattrape et le frappe à nouveau. Bim! Bim! Et Silberstein s'affaisse. Le grand blond ramasse tous les billets sur le comptoir, il y en a pour environ 300 000 francs. Et prenant un air dégagé, il sort de la boutique. Mais entre-temps, M. Silberstein s'est remis, il appelle à l'aide.
Au secours! Au voleur!
Alors le grand blond se met à courir. Mais derrière, ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes à lui courir après. Devant, le grand blond a perdu ses lunettes. Il bouscule des passants. Il trébuche à l'angle de la rue Richelieu. La meute derrière lui se rapproche. Il court toujours. Et à la faveur de la nuit qui vient de tomber, il disparaît dans l'obscurité. Il entre dans un immeuble au 9 boulevard des Italiens. Il monte l'escalier 4 à 4. Il s'arrête sur le palier du 5e étage. Il s'assoit sur les marches. Et il décide d'attendre un peu avant de ressortir. À un moment, il n'entend plus de bruit dehors. Pas de sirène de police au loin. Alors le grand blond décide de tenter le coup. Il descend jusqu'à la cour. Merde! Il y a un policier en tenue devant la porte et un attroupement devant la loge du concierge. Tant pis. Tant pis, il y va. Il se dirige vers la porte, lentement, calmement, l'air détaché. Et au moment où il passe le groupe, il y en a un qui crie.
C'est lui! C'est le bandit, je le reconnais!
Et c'est reparti! Le grand blond se met à courir vers la porte. Le policier le voit, il dégaine et il crie.
Prends les mains ou je tire !
Et là, le grand blond se retourne, il met la main dans sa poche et... Il a tiré au jugé à travers son imperméable. Et le gardien de la paix, Jacques Vergne, 35 ans, veuf, père d'une petite fille, s'écroule. Il a reçu une balle en plein cœur. Il est mort. À ce moment-là, le grand blond se remet à courir sur les boulevards, les gens se lancent à sa poursuite, lui, il a son revolver à la main, un homme tente de l'agripper, il le blesse à la nuque, et il poursuit sa course. Vers le métro Richelieu-Drouot, il arrive en haut de l'escalier du métro, il tire au hasard derrière lui. Il descend les marches 4 à 4, mais en bas, la porte vitrée est fermée, il n'arrive pas à l'ouvrir. Il se retrouve plaqué au sol, il tente de se dégager, il tire encore deux coups de feu. Et finalement, il est maîtrisé et emmené sur le champ au commissariat, où il arrive en sang, il a été roué de coups. Le gardien de la paix qui le dépose dans le hall annonce.
Je vous amène ce gars-là. Il a tué un collègue.
Cet homme, on ne connaît pas encore son nom. Mais c'est un tueur de flics. Et avouez que vous avez un peu de mal à imaginer que dans 50 ans, l'Église catholique va décider d'en faire un saint, n'est-ce pas ? Un tueur de flics. Un flic sur le carreau, c'est le patron de la criminelle, le commissaire divisionnaire Fernet en personne, qui prend la direction de l'enquête.
Bien, monsieur, commençons par le début. Comment vous appelez-vous ?
Fraîche. Je m'appelle Jacques Fraîche.
Et quel est votre âge ?
J'ai 24 ans.
Et d'entrée, ce Jacques Fraîche reconnaît les faits. Mais il est très énervé de s'être laissé prendre. Sur son carnet de commissaire note, aucun remords, aucun regret. Son comparse, lui aussi, a été arrêté. Il s'appelle Criquet.
Moi, j'étais pas au courant qu'il voulait braquer ce monsieur-là. Je savais pas qu'il était armé. J'y suis pour rien, moi. J'étais dehors.
On fait venir monsieur Silberstein. Il les reconnaît tout de suite, tous les deux. Et après, on les entasse dans deux tractions avant, direction le quai des Orfèvres. La suite, c'est là-bas que ça se passe. Et là-bas, que voulez-vous ? Ça se passe à l'ancienne. Un tueur de flics, pensez-vous ? On va pas lui offrir un bouquet de roses. Et donc le commissaire laisse d'abord jouer ses inspecteurs. Ils ouvrent la machine à baffes. Dans ces années-là, au 36, on a la mornifle facile. Et après, Fernet prend Fraîche entre quatre yeux dans son bureau.
Pourquoi vous l'avez braqué, cet agent de change ?
Je voulais de l'argent. Pour m'acheter un bateau. Je voulais partir à Tahiti.
Alors j'ai décidé d'attaquer un changeur.
Et pourquoi vous ne vous êtes pas rendu ? Pourquoi vous avez tiré ?
Ben, le policier m'a fait peur. J'ai tiré par réflexe, quoi.
Au moins, ce Jacques Fraîche ne se cache pas derrière son petit doigt. Il assume, il dit les choses. Mais il n'exprime aucun regret, sinon celui de s'être fait prendre. Pas un mot pour la victime.
Vous avez repéré les lieux ?
Ouais, hier.
Et le revolver, vous l'avez acheté quand ?
Je l'ai emprunté à mon père.
Et quand avez-vous enlevé le cran d'arrêt ?
Je sais plus.
Vous avez compris qu'en posant cette question, le commissaire Fernet cherche à établir la préméditation, à prouver que c'est un assassinat. Et là, l'enjeu est très clair. Un assassin de flic, ça va tout droit à la guillotine, tout droit, sûr et certain. Ensuite, le commissaire interroge lui-même Criquet, le complice, Pierrette, la femme de Fraîche, son père aussi, à qui appartient le revolver. Et puis voilà, hein, l'affaire est bouclée. Le commissaire peut taper son rapport. Fraîche a conçu et réalisé son projet seul. Il a préparé et prémédité. Il a enlevé le cran d'arrêt de son arme par avance. Il avait l'intention de tuer. Sa motivation était l'argent. Dans cette affaire, son complice Criquet a un rôle secondaire. Il s'est fait manipuler. Voilà. Le commissaire a bouclé son enquête de flagrant délit et il passe la main au juge d'instruction, le juge Fayon, qui, sur les faits eux-mêmes, n'a plus grand-chose à apprendre, puisque Fesch a avoué, il est bien parti pour l'échafaud. Écoutez ce que dit le code pénal à l'époque. Le meurtre entraînera la peine de mort lorsqu'il aura été précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime. C'est ce que je vous disais. L'agression du changeur plus le meurtre du gardien de la Péverne, ça fait deux crimes. Jacques Fesch n'échappera pas à la peine capitale. Au fond, il ne reste au juge qu'une seule chose à éclaircir. Qui est ce Jacques Fesch? Comment est-il fait? Quelles étaient ses motivations profondes? Avant tout, c'est un fils de bourgeois, originaire de Saint-Germain-en-Laye. Son père est banquier, un type assez original par ailleurs, musicien, cultivé, mais perché, totalement perché, et pas du tout paternel. Mère au foyer, brave et dévouée, mais malheureuse dans son couple. Une donnée qui a son importance, ce Jacques Fesch est plutôt beau. Grand, blond, les yeux bleus, les traits très fins. Il est même très beau, mais un peu mou. Hein, ses copains disent qu'il est toujours dans la lune, absent, qu'il a l'air de s'ennuyer, qu'il ne s'intéresse à rien. Au collège et au lycée, il n'a jamais vraiment posé de problème. Mais d'après ses profs, il ne faisait rien. Si ce n'est draguer, bambocher et courir les boîtes de jazz. Et d'ailleurs, à la fin, il n'a pas eu son bachot. Il a fait son service militaire, rien à dire. Si ce n'est que c'est écrit dans son dossier, c'est un mauvais tireur. Pendant son service, sa petite amie Pierrette tombe enceinte. Et donc il l'épouse. C'est comme ça qu'on fait dans les années 50. Mais les parents de Fesch n'apprécient pas, car Pierrette est juive. Et eux, ils sont antisémites. Le couple s'installe donc chez ses parents à elle. Un temps, Jacques travaille pour son beau-père, mais l'idiot tape dans la caisse. Le beau-père s'en aperçoit. Alors il le met dehors. Et Pierrette aussi d'ailleurs. Le met dehors, même s'il continue à se voir de temps en temps. Bon, ce qui ressort, c'est que c'est un immature, comme on disait à l'époque. Aujourd'hui, on dirait un branleur. Absolument pas l'idée qu'on peut se faire, dans les années 50, d'un mari et encore moins d'un père de famille. Et donc, le dilettante se retrouve sans travail. Et du coup, sa mère, sa brave mère, qui est désespérée, lui donne 1 million de francs. Avec ça, mon fils, tu n'as qu'à t'acheter une entreprise de livraison. De livraison de charbon, par exemple. Ça paye bien. Il faut que tu travailles. Le voilà donc, patron. Sauf que ce petit branleur dépense la moitié de la somme pour s'acheter une voiture de fonction. Une sportive, bien sûr. Une Simca, avec des sièges en cuir vert. Un aspirateur à gonzesse, comme on dirait aujourd'hui. Assez peu utile, vous en conviendrez, pour livrer du charbon. Entre nous, il ne livrera jamais de charbon, hein. En revanche, il garde la voiture. Et c'est à ce moment-là qu'il se met à rêver de Tahiti. Car il a lu le livre d'un héros d'avant-guerre, Alain Gerbaud. Le premier Français à avoir fait le tour du monde en solitaire à la voile. Grand défenseur par ailleurs de la cause des Polynésiens, de Tahiti. Et donc il lui faut un bateau pour aller à Tahiti. Et il se commande un voilier neuf dans un chantier naval de La Rochelle. Et c'est là qu'il décide de braquer une boutique de change. C'est aussi bête que ça. Il emprunte le revolver de son père, et comme il ne veut pas y aller seul, il embrouille son copain Criquet. Et vous connaissez la suite. Jacques Fesch, du haut de ses 24 ans, est typiquement ce qu'on appelle à l'époque un blouson doré, c'est-à-dire un petit bourgeois décadent. Voilà, voilà le portrait du zigomard qui vient de se faire pincer et qui, sans doute, va finir sous la lame de la guillotine. à ce stade, vous avez toujours un peu de mal à comprendre, comme moi, hein, pourquoi dans 50 ans, l'Église catholique va vouloir élever ce garçon au rang de saint. C'est que vous ne savez pas encore tout. Jacques Fesch se retrouve à la prison de la Santé à Paris. Une petite cellule sale, un lit, une table scellée au mur, un tabouret, levé 7 heures, café noir et pain sec pour le petit déjeuner, et puis ménage de la cellule, et l'après-midi, promenade une demi-heure seule dans une petite cour. Dîner à 18 heures, extinction des feux à 19 heures. On est très loin de Tahiti. Une fois par semaine, Jacques Fesch a droit à la visite de son avocat. Ce sont ses parents qui payent, bien sûr. Ils ont choisi le meilleur. Maître Paul Baudet, le ténor du barreau de Paris. Un homme tourmenté, devenu avocat par compassion. Ça va compter, beaucoup. Est-ce que Maître Baudet est un peu amoureux du beau Jacques Fesch? C'est possible, un peu. Car Maître Baudet est inverti, comme on dit à l'époque. Et comme il vient de Bourges, en Berry, au palais de justice, on l'appelle la duchesse de Berry. Mais c'est de la pure méchanceté. Car ce qui guide profondément cet avocat très humain, c'est sa foi. Il est très chrétien. Il va à la messe tous les matins. Il a même songé à se retirer à l'abbaye de la Trappe, dans l'Orne. Et puis finalement, il a juste fait vœu de chasteté. Et il a décidé de vivre sa vocation à travers son métier d'avocat. D'en faire un sacerdoce. Et donc à chacune de ses visites, lui et Jacques parlent pendant des heures. Des faits, bien sûr, la mort de ce policier, mais plus largement de la souffrance, du châtiment, de la pénitence, de la rédemption. Maître Baudet pèse autant qu'il peut sur le cheminement spirituel de Jacques Fesch, dont il sait que, sans doute, il va finir sous la guillotine. Et en parallèle, de retour en cellule, Jacques se lance dans la lecture, au moins 4 heures par jour. Et dans l'écriture, il y passe toutes ses journées. Et lui qui n'avait rien fichu au lycée, acquiert en quelques mois une vraie culture littéraire. Et ce faisant, il fait un chemin intellectuel. En parallèle, le jeune Fesch écrit beaucoup à sa maman, qui est très croyante. Et c'est elle qui, en octobre 54, lui fait parvenir à la prison de la Santé un livre qui sera déterminant. Un ouvrage de vulgarisation sur Fatima, un petit village du Portugal où la Vierge Marie serait apparue. Ce livre est une révélation qui l'amène à écrire des choses comme « À la racine du mal, de tout mal se cache le péché, c'est-à-dire le refus de l'amour, le refus de Dieu. Le péché, c'est le rejet de l'amour. » Il est en train de se découvrir une foi. Et en mars 1955, une nuit, il se convertit. C'est alors qu'un cri jaillit de ma poitrine, un appel au secours. Mon Dieu, en quelques heures j'ai possédé la foi, une certitude absolue. Et là, il va voir un homme qui lui aussi va beaucoup compter. L'aumônier de la prison de la Santé. Il veut se confesser et il veut communier. Comme il est à l'isolement, il ne peut pas aller à la chapelle. C'est donc l'aumônier lui-même qui vient lui porter le corps de Christ dans sa cellule. D'abord une fois par mois, puis tous les 15 jours, puis une fois par semaine, et finalement presque tous les jours. L'aumônier qui lui porte aussi des livres, la Bible bien sûr, la vie des saints et des ouvrages de piété de toutes sortes. Et puis, en plus de l'avocat Baudet et de l'aumônier de la Santé, entre en scène un troisième homme, un jeune moine qui vient d'entrer dans une abbaye bénédictine et qui s'appelle Frère Thomas. Un jour, il lui écrit, par pure charité chrétienne. Jacques Fesch met du temps à lui répondre. Il le fait en avril 1956. « Mon frère, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Je suis confus de ne pas avoir répondu à ta longue lettre. Mais à ce moment-là, je ne ressentais pas ce que tu m'écrivais. Maintenant, je crois. Et c'est le début d'une longue correspondance qui va durer tout le temps que Jacques Fesch va passer en prison. Et il va y passer 3 ans. 3 ans d'instruction. C'est plutôt long pour l'époque. Et puis à un moment donné, il faut le juger. Et sur ce terrain, c'est très prosaïque. Rien n'a changé. Jacques Fesch est un tueur de flics. Il risque toujours la peine de mort. Le procès de Jacques Fesch s'ouvre le 3 avril 1957. Il est prévu pour durer 3 jours. Sur le banc des victimes, la famille du policier tué et 4 syndicats de police. Quand Fesch entre dans le box, il fait sensation, disons-le. Hein. Il est grand, beau, très bien élevé, très élégant dans son costume gris. Mais vu du public, il est froid, il est méprisant. Et donc il explique à la cour son mobile. Il voulait s'acheter un bateau pour devenir navigateur. Et là, l'avocat général lui dit « Il y en avait des bateaux qui partaient, monsieur Fesch. Ils auraient pu vous tenter. Ils allaient vers l'Indochine. » C'est mal parti. Il explique ensuite qu'il est myope, que dans sa fuite, il a perdu ses lunettes et que quand il a tiré sur le policier, c'était sans viser. Mais dans la salle, le public gronde, on le trouve cynique. Et ça ne s'arrange pas quand les policiers qui l'ont arrêté et interrogé viennent témoigner. Au commissariat, je m'attendais à trouver un garçon abattu, bourré de remords. À ma stupéfaction, j'ai découvert un regard narquois. Narquois. On fait aussi témoigner sa femme, Pierrette. Elle dit qu'elle est encore amoureuse, mais elle dit aussi qu'il est immature, renfermé.
Sa déposition sera la dernière de la matinée. Pour Frédéric Potcher, c'est de loin la plus émouvante.
Ça, c'est une des plus belles dépositions de témoins que j'ai entendues pendant une 30aine d'années. Elle a parfaitement défini son mari en disant « Il ne discerne pas le bien du mal. Il ne parvient pas à délimiter la fiction de la réalité. On ne lui a pas donné de sens moral. Ses parents en sont responsables. Il se savait incapable de concrétiser ses rêves de voyage, mais il n'avait pas la force de retomber sur terre. »
Et ensuite, ma foi, pour l'avocat de la famille des policiers, maître Floriot, c'est du billard. Quand Jacques Fesch va commettre ses crimes, il a son père et sa mère qui ont tout fait pour l'aider. Il a une femme qui l'adore, et un enfant. Il a une maîtresse qui est enceinte. Je pose la question, que pense tous ceux qui se sont débattus dans les pires difficultés, malades, sans argent, et qui ne cherchent dans des travaux souvent ingrats qu'à gagner leur vie. Alors on nous dit qu'en 3 ans de prison, Jacques Fesch s'est transformé, dans le sens du bien, qu'on juge un autre homme, baliverne. Baliverne ! Le Fesch d'aujourd'hui ne vaut pas mieux que le Fesch d'hier. Dans la foulée, l'avocat général parachève la mise à mort. J'ai cherché dans le dossier, n'est-ce pas, quelque chose qui me permette de faire fléchir en faveur de Fesch le fléau de la balance. J'ai cherché dans sa vie. J'ai cherché dans les faits. Je n'ai trouvé que le cancre, le jouisseur, le voleur, l'assassin. Alors j'ai compris que j'ai le devoir de vous demander le châtiment suprême. Reste maintenant à entendre la plaidoirie de Maître Baudet, son avocat, son ami, son confident. C'est pas facile pour lui, d'autant que par pudeur, il ne veut pas évoquer la conversion de Fesch. L'avocat général a dit « Il faut que l'on sache que l'on ne tue pas un policier impunément. » Or la morale n'est pas le sacrifice de l'homme à la société, ça serait trop simple. Notre morale doit être le respect de l'individu. Les lois ne sont pas faites pour la défense d'un ordre social. Il n'y a pas de crime qui mérite un autre crime. On donne une dernière fois la parole à Jacques Fesch. Il se lève, pâle. Je voudrais présenter mes excuses à Madame Vergne. Je n'en veux pas. Je ne veux pas que vous me parliez. Et le 6 avril 1957, après 3 jours de procès et 1h15 de délibéré, la Cour rend son verdict.
La Cour condamne Jacques Fesch à la peine de mort et ordonne que l'exécution se fasse dans l'enceinte de la maison d'arrêt de la santé où il aura la tête tranchée. Je vous remercie.
Jacques Fesch est exécuté le 1er octobre 1957 à l'aube. Ça pourrait être la fin de l'histoire. Ça n'est que le début, en fait. Le début d'une autre histoire. Car Jacques Fesch a passé ses derniers instants à écrire. À sa femme, à sa mère, à Paul Baudet, son avocat, et à son ami le frère Thomas. Dans 5 heures, je verrai Jésus. Qu'il est bon, notre Seigneur. Et à partir des années 70, on va ressortir et publier les lettres de Jacques Fesch dans 2 livres qui ont bouleversé toute une génération de catholiques. Lumière sur l'échafaud et Cellule 18. Jacques Fesch est devenu à cette époque un symbole de ce qu'on appelle la rédemption, c'est-à-dire la capacité de l'homme à se racheter par la foi. Et à la veille de Noël 1993, le cardinal de Paris, Mgr Lustiger, annonce l'ouverture d'un procès en béatification. Il veut que Jacques Fesch devienne un saint. Personne n'est jamais perdu aux yeux de Dieu. Ne pas voir cette évidence constitue une perte de sens chrétien. Et voilà. La machine à réhabiliter Jacques Fesch est en marche. C'est toujours long, un procès en béatification. Mais ça se fera. Sans aucun doute, ça se fera.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.